When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.
Bonjour et très heureux de vous retrouver sur le plateau de Ça se dispute. Le principe de l'émission, vous le connaissez, un face-à-face pour débattre des dernières actualités. Et sur ce plateau cet après-midi, Julien Drey, bonjour.
Bonjour.
Fondateur du mouvement Réinventer. En face de vous, Thibaut de Montbrial, bonjour.
Bonjour.
Avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Vous avez également conseillé sur les sujets régaliens Valérie Pécresse pendant la campagne. Et cette première question... Pour débuter le débat, la justice est-elle trop laxiste? La question se pose alors qu'un multirécidiviste coupable de viol est ressorti libre du tribunal d'Evry, c'était mercredi. Son casier judiciaire est pourtant bien chargé. Un rapide rappel des faits avec Geoffrey Defeuvre et à vous la parole ensuite.
La cour d'assises de l'Essonne a reconnu coupable Bamdan A de deux viols et d'une agression sexuelle commis en 2016, mais il est ressorti libre du tribunal. Pourtant, son profil questionné inquiète.
On a l'impression qu'on fait courir un risque à la société, un risque effectivement de récidive. En tout cas, on peut se questionner là-dessus, puisqu'on lui avait déjà tendu une telle main. Il avait été condamné à une peine de sursis probatoire et manifestement, il n'avait pas compris la portée d'une telle sanction à l'époque, puisqu'il a récidivé.
Selon Valeurs Actuelles, le casier judiciaire du coupable n'était pas en sa faveur. Multirécidiviste, il a déjà été condamné pour vol en réunion, port d'armes, outrage et agression sexuelle sur trois mineurs. Il a été condamné pour ces faits, mais a toujours évité la détention. Cette semaine, il est une nouvelle fois condamné pour viol et agression sexuelle à 6 ans de prison, dont 2 ans fermes mais aménageables. La faible condamnation peut surprendre.
Les faits sont imparfaitement établis, il n'y a pas de problème de preuve. Et comment comprendre qu'un multirécidiviste et multiréitérant d'agression sexuelle finalement s'en tire toujours à bon compte et ne fasse pas un seul jour de prison, ce qui est quelque part une forme de laxisme et d'encouragement finalement.
Le parquet d'Evry-Courcouronnes a fait appel de la décision.
Alors messieurs, au fond, cette affaire, est-ce qu'elle révèle une justice trop laxiste, Julien Drey?
C'est surprenant parce que les juges d'Evry que j'ai connus dans une autre vie n'avaient pas l'habitude de, sur ce genre d'affaires, d'avoir la main légère. Alors il faudrait regarder plus le détail. En tous les cas, dans les faits que vous évoquez là, tels qu'ils sont communiqués par la presse, c'est incompréhensible qu'on le laisse sortir en liberté comme ça. Voilà. C'est incompréhensible, c'est une faute. Je sais qu'on n'a pas le droit de commenter les décisions de justice, soi-disant, mais en tous les cas, moi, en tant que citoyen, je ne comprends pas. Et ça veut dire qu'il y a maintenant vraiment dans cette machine judiciaire des dysfonctionnements. Et on comprend après que la population française soit exaspérée.
Thibault de Montréal.
Moi, je suis avocat, donc j'ai toujours quelques réticences à commenter des dossiers que je ne connais pas de l'intérieur, parce que quand j'entends commenter ce que je connais, je vois parfois des écarts entre la réalité et ce qui est perçu de l'extérieur. Maintenant, la première remarque que je voudrais faire, ce qui est intéressant, c'est que c'est une décision rendue par une cour d'assises. Donc, c'est une décision rendue par des jurés populaires, certes avec 3 magistrats professionnels, mais par des jurés populaires. Donc, quand la question que vous posez, pour savoir si c'est une illustration du laxisme de la justice, ça ne pourrait en tout type hypothèse pas être une illustration d'un laxisme systémique, parce que ce sont des jurés. Et on a aux assises des décisions parfois très curieuses dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a parfois des décisions d'une sévérité tout à fait inattendue et on a à l'inverse de temps en temps des décisions très en deçà de ce qu'on pouvait attendre ou espérer dans l'intérêt de la société. Pour rebondir sur ce que vient de dire Julien et d'une façon plus générale, ce qui est choquant dans l'exposé qui a été fait par le rappel de votre journaliste, c'est ce qui est très inquiétant, c'est la succession des sursis. Moi, je crois fondamentalement, ça fait 28 ans que je suis avocat pénaliste, je défends très régulièrement des victimes, je défends beaucoup les forces de l'ordre. Je crois à un moment aux vertus du coup d'arrêt. C'est-à-dire qu'un délinquant a besoin, et le plus vite possible dans son parcours, d'un coup d'arrêt. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais ça veut dire que le délinquant, et en particulier le primo-délinquant, doit sentir la réponse de la société. Parce que trop souvent, Et là, on commence à répondre à la question de savoir s'il y a un laxisme judiciaire. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un laxisme judiciaire. Je pense qu'il y a un conformisme et que ce conformisme aujourd'hui est en décalage avec les intérêts de la société. Le conformisme, c'est de dire on va laisser une première chance, une deuxième chance, une troisième chance. Et ce que nous intellectualisons comme étant de la bienveillance, c'est-à-dire qu'on tend la main au jeune délinquant en espérant qu'il va pouvoir se réinsérer, etc., lui le prend comme de la faiblesse du système et, comme un, et lui, pour le coup, le prend comme du laxisme et donc comme une sorte de feu vert pour pouvoir recommencer, recommencer, recommencer. Donc moi, je pense qu'il faut très vite mettre des coups d'arrêt. Ça peut être de la détention, ça peut être d'autres formes de coercition, mais il faut que le jeune délinquant en particulier sente très très vite que quand on met les doigts dans, les prix, dans la prise, il y a de l'électricité qui sort.
On a trop tendu la main aux délinquants, Julien Drey ?
Moi, je suis pour la bienveillance jusqu'à une certaine limite. Or, l'énoncé des faits, je suis d'accord avec Thierry, on va sous bénéfice d'inventaire, comme on dit. Hein. Donc faut vérifier qu'il n'y a pas eu de manipulation, etc. Mais si les faits tels qu'ils sont rapportés sont exacts, la bienveillance, elle a déjà eu lieu. Et la question qui est posée, y compris dans le prononcé de la peine, c'est ces 2 ans aménageables. Parce que là, ce n'est pas le jury populaire qui décide l'aménagement. C'est les juges qui décident ou non, parce qu'ils peuvent très bien décider que ces 2 ans fermes, ils ne sont pas aménageables. Voilà. Alors, qui va les exécuter tout de suite. Voilà. Donc, de toute manière, le système, on le connaît maintenant. On sait que s'il n'y a pas une sanction forte, vite, et qui est prononcée, eh ben, il y a une installation de la délinquance parce qu'effectivement, on considère qu'on peut passer au travers de tout cela. Alors après, il y a certainement des tas de causes qui sont explicitées par les délinquants, mais je pense qu'on est arrivé à un moment donné où il faut que la justice elle-même, c'est pas les juges, parce que je pense qu'ils sont débordés et que souvent, ils n'ont pas forcément le temps de tout étudier, mais il y a aujourd'hui un sentiment qui s'est installé qu'il y a toute une petite délinquance, enfin petite entre guillemets, puis là c'est quand même la grosse délinquance, excusez-moi, qui passe au travers des mailles du filet. Et ça va pas.
Et est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière la question du manque de place en prison avec des magistrats qui évitent au maximum d'envoyer les délinquants en prison? Est-ce qu'il y a une idéologie justement particulière dans le milieu de la justice pour éviter la prison?
Alors, il y a deux réponses à votre question. D'abord, oui, il y a une certaine forme d'idéologie avec la défense sociale nouvelle qui existe depuis les années 1970 et qui, en gros, fait que dans ce qu'on enseigne dans la magistrature, la prison, il faut faire attention. Il y a ces fameuses aberrations qui considèrent que la prison est l'école du crime, etc. En réalité, en prison, il y a beaucoup de gens très dangereux parce que avant d'aller en prison, il faut avoir commis, pour les raisons que je viens d'expliquer, 2, 3, 4 fois des actes graves. Mais d'une manière plus générale, moi je pense qu'il faut complètement changer le rapport à la prison. D'abord en France, par rapport à la moyenne européenne, il nous manque 20 à 30 000 places de prison. Ça, c'est un fait statistiquement établi. Ensuite, il faut changer le rapport. C'est-à-dire que dans un certain nombre de pays, vous avez des prisons à sécurité différenciée. Moi, je pense qu'il faut casser le dogme de la prison unique du tout ou rien. Et qu'il faudrait, par exemple, que les délinquants en col blanc, que les délinquants routiers soient dans des établissements où la sécurité est moindre et donc qui coûterait moins cher en coûts par détenu. Parce que quelqu'un qui a eu un accident de voiture sous l'empire de l'état alcoolique et qui est condamné à la prison ferme, il va pas s'évader. Il va pas agresser des surveillants. Alors que les gangs mafieux, etc., eux, sont des gens très dangereux. Donc, il faut casser notre vision homogène de la prison qui existe depuis 30 ou 40 ans. Il faut réinventer toute cette partie de la politique pénale dans notre pays.
C'est ça l'enjeu, réinventer la politique pénale dans notre pays.
Je pense que la question qui est posée, elle est bien posée, y compris. Oui, il faut différencier les choses parce que là, vous avez un délinquant récidiviste qui passe au travers. Et puis, alors, vous allez avoir, dans un autre jugement, un jeune de 18-19 ans qui va arriver au mauvais moment, qui lui va prendre 3 ans ferme et qui va être précipité dans des prisons où il y a effectivement des gens qui l'attendent pour l'éduquer au mauvais sens du terme. Et on sait, alors c'est ça le problème, y compris, c'est vrai, pour avoir été pendant des années le député où il y avait la prison de Fleury-Mérogis, c'est vrai que la prison c'est pas le cadre idéal de réinsertion. Hein. Faut être normalement dans les missions de l'administration pénitentiaire, il y a les deux choses. Il y a la sanction et la préparation à la réinsertion. Mais la préparation à la réinsertion, quand vous avez un jeune mineur qui est jeune délinquant qui arrive et que vous avez où les gangs islamistes, parce qu'il y en a, ou les gangs mafieux, parce qu'il y en a de l'autre côté, qu'il n'a pas d'argent pour cantiner, qu'il est perdu, et ben pour se protéger, il va basculer d'un côté ou dans l'autre.
L'actualité aujourd'hui, messieurs, elle est aussi marquée par l'affaire Éric Coquerel. Éric Coquerel qui s'est exprimé dans le JDD, le nouveau président de la Commission des Finances, qui sort de son silence. Il dénonce des rumeurs infondées sur son comportement avec les femmes et il nie tout comportement inapproprié, justement. Écoutez-le.
Il y a eu des enquêtes journalistiques sur moi depuis plusieurs années. Peut-être que BFM en a fait, je ne sais pas, sur des médias sérieux. Aucune n'a débouché. Pourquoi aucune n'a débouché ? Parce que la rumeur n'a pas suffi pour les journalistes, et fort heureusement, et d'ailleurs je salue la qualité professionnelle des journalistes qui l'ont fait, mais ils ont cherché des faits. Au moins, à un moment donné, un témoignage circonstancié, vérifié. Okay. Sophie Tissier est quelqu'un qui a été aussi interrogé par des médias depuis 4 ans. Que par exemple, encore il y a quelques jours, et le JDD l'explique, elle a proposé 2 témoins au JDD pour aller vérifier ses dires. Que le JDD aujourd'hui dit qu'il a appelé ces 2 témoins qui ont non seulement infirmé ses dires, mais les ont même contredits sur cette fameuse soirée où je nie avoir eu les gestes déplacés qui sont décrits.
Thibault de Montbrial, il a eu raison de sortir de son silence sur cette affaire, Éric Coquerel ?
Ah, politiquement, je pense qu'il a eu raison. C'est-à-dire qu'il fallait, de son point de vue et dans son intérêt, il fallait éviter que ça vire au mauvais feuilleton en ce début d'été où on manque parfois un peu de sujets d'actualité et que tout à coup, ça devienne le quotidien, le supplice chinois avec une nouvelle information chaque jour. Maintenant, je ne suis pas du tout sûr que ça va suffire. Ça va être intéressant de voir comment se situent des médias comme Mediapart qui font avec beaucoup de zèle la chasse dès qu'il s'agit des gens sur la droite de l'échiquier et qui sont beaucoup plus long à la détente quand c'est à gauche. On va voir. Moi, j'ai aucun avis sur le fond. Mais en tout cas, tactiquement, il a eu raison de parler parce que ça passe ou ça casse. Mais au moins, en parlant, il a une petite chance que ça s'arrête.
Julien.
C'est la preuve qu'il faut défendre la présomption d'innocence et pas accepter la présomption de culpabilité. Parce qu'il en est victime aujourd'hui. Il est victime et je comprends qu'il soit amené à prendre la parole. Moi, je combats les idées d'Éric Coquerel sur bien des plans parce que je ne suis pas en accord avec lui. J'ai eu des relations très tendues quand il était élu à la région Île-de-France. Mais je pense que ce qui est en train de lui arriver est insupportable. Parce que soit il y a des faits, soit il y a des plaintes, soit les choses sont établies, soit cette rumeur lancinante permanente de « il n'y a pas de fumée sans feu », etc. est terrible. Elle est épuisante, énervante. Et ce n'est pas ça défendre les victimes. C'est pas vrai, on défend pas les victimes dans ces cas-là. On a fait des progrès dans la prise en considération de la parole des femmes. Il y a des choses qui étaient, voilà, tout n'est pas parfait. Et d'ailleurs, je trouve que sa tribune, vous savez, j'ai beaucoup de désaccords avec lui, mais j'ai trouvé que sa tribune était assez équilibrée, y compris dans la démarche qu'il a de dire, nous, hommes de 50 ans, on est amenés aujourd'hui à regarder nos relations avec les femmes d'une autre manière parce que les choses ont évolué à juste titre et donc se remettre en cause. Chacun, à un moment donné, est amené à faire des examens de conscience, poser des questions, etc. Mais là, on est rentré dans un système où la dénonciation prend le pas sur l'enquête, sur les faits, et c'est insupportable.
Alors Sophie Tissier, pour le moment, on le rappelle, il n'y a pas de plainte, pas d'enquête. Sophie Tissier, c'est une militante de gauche et ancienne figure des Gilets jaunes, qui a annoncé avoir fait un signalement aujourd'hui au comité de suivi des violences sexuelles de LFI. Quant au comportement envers elle du député Éric Coquerel, vous le voyez à l'image, son tweet. Est-ce que cela peut changer la donne, Thibault de Montbrial ?
Moi, ça me rappelle, sur le fond, la réponse à votre question, c'est que j'en sais rien. On va voir comment ça réagit. Mais ça me rappelle quelque chose qui a eu lieu, si vous vous souvenez, il y a à peu près 2 mois, au début de la campagne pour les élections législatives, au moment des investitures. Il y avait le militant d'extrême gauche, Tahab Ouaf, qui avait été investi, je crois, à Vénissieux, de mémoire, en tout cas dans la région lyonnaise. Et il y a tout un tas de... Tout à coup, mais alors là, il n'y en a pas une histoire. Il y a plusieurs histoires qui sont sorties. Et on avait entendu, dans un premier temps... Les gens de LFI avaient voulu sauver le soldat Bouaf, et on se souvient de certaines figures qui étaient montées sur les plateaux télé en expliquant qu'il n'y avait rien, qu'ils avaient fait une sorte d'enquête interne, jouant à la fois le rôle du procureur et du tribunal pour innocenter l'intéressé. Et puis ensuite, la pression avait été trop dure à tenir et la candidature de Tahab Ouaf avait été écartée. Donc les mêmes à l'époque qui avaient essayé d'enterrer l'affaire en disant qu'ils avaient regardé et qu'il n'y avait rien à voir, alors que manifestement c'était plus compliqué que ça, sont donc saisis. On va voir comment ça réagit. Ça va être intéressant parce que, juste, pardon, pour compléter la réponse, c'est l'enjeu politique est considérable pour la France insoumise. Parce que là, on ne parle pas d'une investiture à une élection future. On parle de maintenir en poste un député de sa famille politique qui vient d'être élu à un des postes les plus importants de l'Assemblée nationale, ce qui est une chance, je le dis dans leur intérêt, parce que moi, je pense que c'est une catastrophe à titre personnel, mais c'est une chance historique pour la France insoumise d'avoir obtenu ce poste-là. Et on va voir on va voir comment il se dépatouille de cette situation, mais ça va être intéressant.
Il peut tenir, il doit tenir à la tête de la présidence de la commission des finances, Julien.
Et là, la dame en question saisit la commission de LFI. Bon, Dans ces cas-là, s'il y a des faits qui existent, qui sont réels, elle doit se saisir de la justice, pas une commission. Et pas... Donc la question est de savoir si ce n'est pas des choses qui ont des visions plus politiques par rapport à LFI. Parce que s'il y a des faits, il y a la justice, il y a des centres d'écoute, il y a des policiers qui sont maintenant formés à prendre en considération, il y a justice qui est capable de réagir. Il y a beaucoup moins de laxisme qu'il y avait auparavant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des choses qui ne se passent pas bien, etc. Et qu'il n'y a pas encore des femmes qui, malheureusement, ne sont pas prises ou respectées comme il se doit par rapport à leurs paroles. Mais il y a quand même, à un moment donné ou à un autre, une réflexion globale qu'il faut avoir. Il y a eu des choses très positives dans la prise de parole des mouvements féministes sur ces questions-là. Il y a des choses qui sont inacceptables sur les féminicides, sur les comportements, etc. Mais on voit bien que la combinaison de cette prise de parole avec l'existence des réseaux sociaux et la manière dont sont instrumentalisés ces réseaux sociaux comme étant en devenant une sorte de tribunal populaire sur lequel chacun peut y aller et sans qu'il y ait aucune conséquence pour celui qui intervient sur ces réseaux sociaux et qui calomnie, est devenu problématique pour moi.
Et un mot pour répondre à Julien, parce que je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, et j'ajoute que c'est toujours pareil, la concomitance de calendrier est toujours très gênante, parce qu'on se dit, si jamais il y a des choses graves, la dénonciation d'un fait criminel, parce que soit c'est du délit lourd, soit c'est du crime, en fonction de la qualification pénale, doit être totalement indépendante d'un calendrier politique. Si quelqu'un se conduit mal, il y a une plainte, il y a une enquête, quel que soit le temps politique par ailleurs. Là, c'est toujours... Il y a toujours une sorte de il y a une suspicion sur la parole qui tout à coup se libère 24 heures après l'annonce d'une promotion ou d'une élection politique. Voilà. Et puis là encore, c'est vrai que cette femme saisit une commission politique, mais s'il y a des faits pénalement répréhensibles, que ne saisit-elle pas le parquet ?
Alors les rumeurs qui partent souvent des réseaux sociaux, ça veut dire quoi, Julien Drey ? Qu'il faudrait davantage contrôler ce qui se dit sur les réseaux sociaux, notamment dans ce type d'affaires ?
Je pense que ça va être très difficile. En tout cas, il y a une réflexion et les législateurs devraient se pencher sur cette question-là, comment on arrive à au moins sanctionner quand il y a la preuve que ce sont des fake news, qu'elles ont été instrumentalisées, que pour que ceux qui les lancent ne se cachent pas derrière des comptes qui sont masqués, etc. Et puis après, il y a des meutes qui se forment, etc. Au moins, cette question-là, elle est posée, parce que sinon, on va arriver dans des situations qui vont devenir de plus en plus difficiles et il y aura des drames humains. Il y a le drame des victimes, mais il y a aussi le drame de ceux qui subissent ces campagnes-là et qui peuvent être amenés à avoir des gestes terribles. Parce que, vous savez, quand vous êtes soumis à ces campagnes et que vous n'arrivez pas à prouver vous pensez que vous êtes bien comporté, en tout cas, vous n'avez pas fait les fautes qu'on vous reproche, ça ronge. Et ça peut ronger jusqu'à l'extrême.
C'est la législation des réseaux sociaux qui est interrogée aussi aujourd'hui ?
Oui, mais il y a beaucoup d'efforts législatifs qui ont été faits. Le problème, c'est que le temps judiciaire ne sera jamais équivalent au temps de l'effet de la rumeur. Regardez, l'impact, quelle que soit la façon dont cette affaire va se terminer, ça a commencé mardi ou mercredi. On est dimanche, on est en plein dedans. Et s'il y a un effet, si ça doit avoir un effet, ça va avoir un effet dans les jours qui viennent. Si jamais M. Coquerel décidait de porter plainte, lui, en dénonciation calomnieuse, par exemple, ou en diffamation contre des journaux qui auraient repris les accusations, ça mettrait des années avant d'être jugé. Donc on voit bien qu'il y a une distorsion temporelle. Quels que soient les efforts de la loi, il y aura toujours un effet politique négatif qui primera sur le résultat d'une éventuelle plainte contre ces propos.
Avec le fait que quand vous portez plainte en dénonciation calomnieuse ou en diffamation, ça va mettre des mois et que souvent à la fin, il se passe pas grand-chose. Voilà. Par contre, ceux qui ont lancé la diffamation et qui ont entretenu cela, ils ont gagné grâce à ça une exposition médiatique considérable.
On a en tête aussi, bien évidemment, cette affaire Rabad. Bon, c'est pas pareil. Il y a une enquête préliminaire, cette fois, qui est ouverte par la justice. Il y a également des témoignages. Mais au début, on était aussi dans ce contexte de rumeurs. Et les mêmes, qui sont plus cléments aujourd'hui avec Kerry Coquerel, demandaient alors la démission de Damien Rabad, des réactions donc à géométrie variable.
C'est sûr, mais là c'est le volet politique qui fait que les gens n'ont pas toujours une cohérence dans le comportement face à ce genre d'accusation. Maintenant, comme vous l'avez rappelé, à date, hein, je dis bien à ce jour, la situation le cas de Damien Abad n'est pas le même parce que, de ce que j'ai compris, il y a des plaintes de déposer. Donc il y a un calendrier judiciaire qui est en train de s'établir, alors que pour Coquerel, il n'y en a pas ou pas encore.
Justement, l'avenir de Damien Abad, il interroge, puisque l'actualité politique, c'est aussi le remaniement imminent. Dans tous les cas, ce sera avant mercredi, jour où Elisabeth Borne doit prononcer son discours de politique générale. Pas d'opposants a priori dans le nouveau gouvernement. Alors ce nouveau gouvernement, Julien Drey, avec qui? Pour quel cap?
Ça, je pense que c'est le... Je n'ai pas la réponse à votre question. Avec qui? Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas certain que ceux qui sont chargés de constituer ce gouvernement aient encore, à l'heure où on se parle, la réponse à cette question. Je pense qu'il y a des consultations multiples de ce que j'entends, de ce qu'on me rapporte, de ce qui se dit. Il y a une volonté d'élargissement. Alors certains disent de débauchage, d'autres disent de coalition. C'est clair qu'on a une date maintenant qui est fixée. C'est mercredi. Et c'est de la question de savoir si la Première ministre ira jusqu'au vote de confiance, qui là scellerait de manière publique l'existence d'une majorité. Et je pense que toute la question du gouvernement est conditionnée à cela. C'est-à-dire que pour le président de la République comme pour la Première ministre, un échec ou un échec relatif serait évidemment une difficulté énorme dans les mois à venir parce que toutes les mesures seraient contestées et on voit bien l'agitation qui en découlerait. Donc je pense que la construction du gouvernement, elle est conditionnée à l'idée d'arriver à avoir un vote et un vote majoritaire.
Des figures des LR, Thibault de Montbrial?
Ah ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Je sais que les téléphones chauffent, hein, comme Julien vient de le dire. Maintenant, ce que je peux vous donner, moi, c'est mon avis. Je pense que la droite a raté une chance de peser beaucoup plus que ce qu'elle va faire dans les mois qui viennent. Pourquoi? Parce que le président de la République, juste avant de s'envoler pour son périple international, a fait un discours un peu surréaliste sur le thème « débrouillez-vous entre vous » et puis quand je reviens, vous me dites ce que vous avez décidé. Mais en réalité, la situation à l'Assemblée nationale, c'est le résultat des errances de son positionnement entre l'élection présidentielle et les élections législatives. Et c'est à lui de prendre ses responsabilités. Moi, si j'avais été parmi l'équipe dirigeante des LR, j'aurais profité de cette opportunité, il faut bien le dire, assez extraordinaire, d'avoir un résultat qui n'est pas un bon résultat électoral et pour autant d'être en capacité de peser pour aller exiger des postes régaliens et pourquoi pas Matignon, pour aller exiger que quelques lois dont nos électeurs, les électeurs LR, que les électeurs LR attendent et pour lesquelles ils ont voté à la fois à la présidentielle et aux législatives sur la sécurité, sur l'immigration, sur la justice dont on parlait tout à l'heure, soient mises dans un pacte de gouvernement et on n'aurait pas eu une coalition, on aurait eu une cohabitation. Quitte à ce qu'Emmanuel Macron refuse. Mais à ce moment-là, c'est Emmanuel Macron qui aurait été le responsable de la cacophonie qui va suivre. Je pense que là, LR a, sur ce coup-là, ma famille politique, hein, puisque moi j'ai été candidat aussi LR aux élections législatives, ma famille politique a manqué de courage. Et c'est dommage, parce qu'on aurait mis le président de la République devant ses responsabilités. Et je pense que ça, la situation le méritait.
Manque de courage chez les LR?
Non, j'allais dire, j'en trouve enfin un. Parce que ça fait 3-4 jours que dans les débats qu'on anime, je dis, je ne comprends pas la position de LR. Voilà. Je pense qu'ils sont sur une position suicidaire parce qu'ils veulent être l'opposition, tout en sachant qu'ils sont mordus au jarret par l'existence d'un Front National qui va être au carré et qui va jouer toujours plus radical et que dans ces cas-là, on va au plus radical, on ne va pas à la soupe tiède. Donc je pense que leur intérêt aurait été effectivement de poser les termes d'une cohabitation, alliance, etc. Et que là, effectivement, je ne comprends pas la position des députés LR. Je le dis
honnêtement. Mais j'insiste parce que je sais que ce que je vais dire après va être disséqué. En position de force, c'est-à-dire il ne s'agit pas de négocier trois strapontins avec une coalition où on a on est la cinquième roue du carrosse. C'était vraiment l'occasion de prendre la main. Et puis après, le président fait ce qu'il a à faire. Mais je pense que c'est une occasion ratée. Et encore une fois, ça n'aurait pas été trahir nos électeurs, puisque dans le deal précisément et proposé au président, ça aurait été d'exiger que soient votés des textes qui sont parmi les textes auxquels les électeurs de droite tiennent le plus.
Mais les LR,
j'avoue que ça aurait pu me permettre une clarification à gauche, parce que ça aurait évité que certains à gauche se disent, vous voyez bien, on peut rentrer dans ce gouvernement parce que c'est en même temps, etc. Donc là, on va rester quand même un peu dans la confusion.
Mais le LR suffisamment puissant pour imposer des choix au gouvernement?
La question, vous savez, c'est une question arithmétique, là. C'est simple. Il faut une majorité à l'Assemblée nationale, d'une manière ou d'une autre. Donc il faut la construire. Alors après, il y a deux chemins possibles. Ils ont été évoqués. C'est dit, on va la construire texte par texte. Je ne crois pas qu'une telle situation soit possible au regard du rapport de force tel qu'il est. Quand c'était le cas de Michel Rocard, en 88, il lui manquait 5-6 voix, et il y avait toujours, excusez-moi l'expression, des réserves. C'est-à-dire qu'il pouvait jouer avec les centristes, même avec les communistes parfois, etc. Là, on n'est pas du tout dans la même situation. Là, il y en manque plus de 40, c'est un gros chemin à faire. Il n'y a pas de groupe qui peut faire qui a la capacité de faire la charnière. Donc c'est une vraie majorité à construire, texte par texte. En général, ça conduit vraiment à la confusion, et après, y compris à la confusion dans les textes eux-mêmes, parce que voter un amendement ici, un amendement là, pour arriver, etc. L'autre chemin, c'est la construction d'une coalition. Encore faut-il qu'ils arrivent, sinon, de toute manière, ça débouchera sur une crise politique.
Des compromis possibles ou pas avec ce futur gouvernement ?
C'est encore une fois, c'est impossible de vous répondre tant qu'on ne sait pas sur quelle base de contrat de gouvernement il va être fait. Mais si, là, pour le coup... je vous parle encore à nouveau pour la droite, hein, mais si la droite n'a pas réussi à imposer une place déterminante, comme je viens de dire qu'elle aurait dû tenter de le faire, là, pour le coup, il ne faut pas devenir les supplétifs, parce que l'électorat de droite, sans aucun doute, le vivrait très mal.
Mais là, ça va être difficile, parce que toute une partie des textes que Emmanuel Macron va proposer vont quand même, plutôt idéologiquement parlant, hein, dans votre sens, plutôt que dans le sens de la gauche radicale. Bon, même si après on va voir sur le texte pouvoir d'achat, s'il y a des mesures, etc. Donc ça va être difficile. Moi, je pense que la vie pour un député LR à l'Assemblée nationale dans les semaines à venir va être difficile au regard des choix qui sont faits pour l'instant.
Peut-être en tout cas, pas de compromis avec le RN et LFI. C'est ce qu'a dit Aurore Berger ce matin. On en parle dans un instant, mais tout de suite, la pub. Et de retour sur le plateau de Ça se dispute avec Julien Drey et Thibaut de Montbrial. Un remaniement imminent, on en parle, on en débat. Avec qui, pour quel cap? On va écouter Aurore Berger, elle s'exprime à ce sujet justement ce matin.
Ce qui est important, c'est qu'on ait surtout une équipe qui soit là pour répondre aux préoccupations des Français. La première d'entre elles, c'est la question du pouvoir d'achat. Ce sera même quasi le premier texte qui sera examiné, nous, à l'Assemblée nationale. C'est ça qui compte. À partir du moment où, dans les prochaines heures, le nouveau gouvernement sera formé, eh bien nous aurons un exécutif définitivement installé, comme nous avons un législatif avec trois groupes de la majorité, et notamment Reconnaissance qui sont installés.
Alors cette Assemblée nationale, où il n'y a pas de majorité absolue, eh bien, il faudra des compromis dans les différents groupes d'opposition. Une ligne rouge pour Aurore Berger qu'on vient d'entendre, c'est aucune compromission avec l'extrême droite, aucune compromission avec l'extrême gauche. Elle a raison, je viendrai.
Bon, avec l'extrême droite, j'arrive à comprendre. Avec l'extrême gauche, le terme extrême gauche est maintenant redevenu à la mode. Et donc on met tout, c'est un terme généraliste, dans la NUP, je m'excuse de le dire. Il y a des socialistes, il y a des écologistes, il y a la France insoumise. Tout n'est pas pareil sur les questions. Enfin, tout n'est pas pareil, on va voir dans les semaines à venir. Même si, ce qui est vrai, c'est qu'une partie du Parti socialiste est aujourd'hui, comme dans le film Le Livre de la Jungle, avec le serpent K, totalement séduit par la personnalité de Jean-Luc Mélenchon.
Mélenchonisation du PS ?
Ah bah attendez, la NUPES, ceux qui, dans les différents partis de gauche que vous venez de rappeler, ont accepté de participer à l'alliance avec des gens qui ont défilé avec les islamistes le 10 novembre 2019, prennent la responsabilité d'être assimilés à eux. Moi, je me souviens d'un débat à la télé sur cette même chaîne... Au moment où la question de l'alliance avec la NUPES était en train de se négocier. Et il y avait un de vos camarades, Julien, un socialiste, je ne vais pas dire son nom, mais c'est un socialiste historique. Il en avait les larmes aux yeux en coulisses, parce que lui était contre l'alliance et il dit on est en train de se perdre. Le PS, qui est un parti profondément républicain, est en train de perdre son âme en s'associant avec des mélenchonistes qui, eux, complètement quittaient terre en ce qui concerne le référentiel républicain. Donc si, moi je considère que la NUPES est d'extrême gauche par capillarité. Voilà. Et pour revenir sur votre question, Aurore Berger, elle dit c'est le nini. Il faut quand même se souvenir que pour l'élection des vice-présidents, Renaissance ou La République en Marche a voté pour des postes de vice-président du Rassemblement National, ce qui n'est d'ailleurs pas illégitime au regard du rapport de force numérique dans l'hémicycle. Mais donc ça va être très intéressant parce que je pense que les postures de principe vont quand même évoluer dans le détail.
Moi, je suis d'accord avec cette idée-là. Je pense que on va commencer par la diabolisation des uns et des autres, parce que c'est l'ambiance au départ. Mais après, l'Assemblée nationale, il y a les questions d'actualité, puis il y a les commissions et les débats sur les textes. Et sur les textes, on ne peut pas faire simplement de la diabolisation. Je veux dire, ou alors ça bloque tout de suite. Et donc on va pousser les uns et les autres dans leurs contradictions. Et c'est là qu'effectivement le débat peut être intéressant et enrichissant parce qu'on va pouvoir voir quelles sont les cohérences ou les incohérences des uns et des autres. Là, c'est vrai que l'Assemblée nationale peut devenir un lieu de débat politique important. Mais ça ne sera pas au moment des questions d'actualité, puisque les questions d'actualité, ça va être du positionnement, y compris parce que c'est retransmis en direct, etc. Mais après, dans les commissions, comme dans les débats en séance, il peut se passer des choses, et en tous les cas, ça peut redonner envie à la politique, parce qu'on va se dire qu'il y a des débats intéressants.
Alors ça peut redonner envie à la politique, mais il y a beaucoup d'attentes chez les Français. On parlait du pouvoir d'achat, hein, Berger l'évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'avec cette nouvelle situation, cette structure inédite, on va pouvoir avancer tout de même?
On va voir. On va voir si le plan, c'est de donner des chèques alors qu'on a déjà 120% d'endettement. Je suis pas sûr que ce soit une super idée, mais si ça fait plaisir aux gens et si le gouvernement, si la majorité présidentielle, qui n'est donc pas majoritaire à l'Assemblée, doit choisir des textes, elle va essayer de choisir des textes avec une forme de démagogie. Moi je pense que c'est poursuivre la catastrophe économique, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça va être intéressant de voir.
Enfin, la catastrophe économique, elle est là pour l'instant. Mmh. Si on continue comme ça, avec la guerre telle qu'elle est en train de se développer, avec la spéculation qu'elle génère, parce qu'il y a l'augmentation des prix réels, et puis il y a toute la spéculation derrière. Vous avez maintenant, on a des informations qui montrent qu'il y a des profiteurs de guerre qui sont installés, il y a des bateaux qui n'arrivent pas à port parce qu'on attend que ça augmente, que ce soit pour le pétrole, que ce soit pour les matières premières. Donc on a une guerre qui prend une tournure particulière, et dont je pense que ça serait d'ailleurs important que l'Assemblée nationale puisse débattre de la position réelle de la France dans cette situation. Je maintiens que s'il n'y a pas une offensive pour la paix, et si la France ne reprend pas l'initiative pour un cessez-le-feu et une discussion de paix, cette guerre, elle est en train de se faire au détriment de l'Europe, pour le plus grand bénéfice des Américains, et qu'elle générera une énorme crise économique derrière.
Mais Julien, pour revenir sur la politique gouvernementale, depuis 5 ans, la seule chose qu'a fait Emmanuel Macron sur la question du pouvoir d'achat, c'est de sortir le carnet de chèques. C'est-à-dire que quand on regarde l'augmentation de la courbe de la dette, pendant la campagne présidentielle, ou en tout cas le peu de campagne présidentielle qu'il a faite, Emmanuel Macron a essayé de faire croire que c'était la crise sanitaire qui avait creusé l'endettement. En réalité, c'est totalement faux. Même son ministre de l'économie expliquait que la part de la crise sanitaire était du tiers de l'augmentation de la dette sur le quinquennat. Donc là, on est en train de continuer et de faire... On va à nouveau creuser, d'après ce que j'ai compris, en proposant des chèques. Sauf qu'entre-temps, les taux d'intérêt sont en train de monter à toute vitesse, ce qui n'était pas le cas pendant le quinquennat, et que l'addition va être salée, et ça va devenir intenable.
Alors, il faut faire attention parce que le carnet de chèque, il l'a sorti aussi parce qu'il a géré le Covid. Ouais. Et que dans la gestion du Covid, heureusement que le quoi qu'il en coûte a existé. Il faut être honnête. Et c'est d'ailleurs, d'après moi, un des éléments clés de sa réélection. Maintenant, sur la dette, Nicolas Sarkozy n'avait pas été non plus, je dirais, un bon élément à l'époque quand il avait géré le pays. Alors, moi, je suis pour être sérieux avec les finances publiques, mais je ne suis pas pour qu'on revienne à une forme. J'entends le discours des Républicains commencer à dire attention, la dette est explosive parce que M. Le Maire a dit on rentre dans la zone rouge. Je veux dire, on a quand même appris une chose de ces 3 dernières années, c'est que la barrière des 3% était une stupidité idéologique qui a paralysé les économies. Alors après, il faut faire il va falloir justement dans l'affaire de la dette faire la part de ce qui est nécessaire, c'est-à-dire les dépenses d'investissement ou le gaspillage de dépenses de fonctionnement parce que par l'acheter on veut pas faire des réformes qu'il faut faire. C'est ça la part des choses qu'il faut faire. Mais il faut pas, je dirais, recommencer les erreurs qui ont été commises dans les années passées. C'est-à-dire on sacralise la question de la dette et à partir de là on paralyse l'investissement économique.
Il y a un point qui est un changement majeur par rapport au rapport à la dette de ces 10 dernières années, c'est la remontée très rapide des taux d'intérêt. C'est ça qui fait la différence.
Oui, mais ça va dépendre après de la banque. La différence qu'il y a, et ça c'est une chance, c'est que la Banque Centrale Européenne est sortie de son orthodoxie budgétaire, de ce qu'on appelait l'ordolibéralisme à l'époque. Et on voit bien que l'Allemagne, qui avait un poids réel dans cette affaire, a aussi intérêt aujourd'hui à ce que l'Europe ne rentre pas dans une récession profonde.
Alors, une dette des complications économiques liées au dossier ukrainien, vous l'évoquiez à l'instant, Julien André. On va revenir sur cette vidéo publiée par la présidence de la République, justement, qui a suscité beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Là encore, on y voit Emmanuel Macron au sommet du G7, le chef de l'État qui met en avant ces derniers jours sa stature à l'international. Regardez cet extrait.
C'est ça qu'on doit discuter en G7. C'est comment on arrive à avoir des sanctions qui empêchent la Russie de financer son effort de guerre. C'est ça le but de nos sanctions.
Ce qui ressort de ce G7, c'est que ça n'est pas l'Ouest qui s'oppose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. La Russie ne peut ni ne doit gagner.
Monsieur le Président, So let's revert to that.
I'm a listener, a serious guy.
Like I tell you, it's economy.
No, I agree.
Il faut qu'on arrive à éviter que l'inflation, qu'il y ait la guerre, ne rende la vie impossible pour beaucoup de nos compatriotes. Donc la réflexion qu'on a eue là sur trouver des solutions concertées pour baisser les prix de l'essence et du gaz, elle est essentielle pour le pouvoir d'achat et c'est la plus structurante parce qu'elle ne coûte pas d'argent aux contribuables et elle aidera le consommateur. Voilà.
Thibault de Montbriel, c'est de la diplomatie spectacle.
Je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve ça pas mal. Parce que les citoyens se demandent toujours un peu comment ça se passe, ces grandes réunions internationales. Il y a une espèce d'opacité, il y a parfois même un complotisme dans une certaine partie de la population. Et là, il y a aucun secret qui est révélé. On voit, surtout la vidéo dure à peu près 4 minutes, hein, on voit du bilatéral, du multilatéral, on voit des phases de décompression, on voit des phases de travail sans que jamais le fond ne soit révélé. Je trouve ça pas mal. Après, dans l'intérêt du président de la République, qu'il scénarise son volontarisme, comme ils disent, il est dans sa logique. Moi, ça ne me choque pas. Ça me choque moins que la vidéo, qui est beaucoup moins à son avantage, qui a circulé et qui a été captée par une télévision qui n'est pas une caméra complaisante comme celle-là, mais qui est une chaîne indépendante, et où on le voit courir après le président américain en essayant d'attirer son attention, et d'ailleurs en n'y parvenant pas dans un premier temps, pour tenir des propos sur le fond qu'il a pour le coup. Alors soit il a fait de la mise en scène, soit c'était très imprudent, mais dans les deux cas, là, je pense que c'était une petite faute.
Il y a eu aussi ce documentaire cette semaine qui montrait le chef d'État en action pendant ce dossier ukrainien. C'est utile pour les Français, c'est important.
Mais bon, je vais pas faire le procès de ce genre de communication. Tout le monde en fait et on comprend bien l'intérêt, c'est de peut-être un peu d'expliquer ce qui est en train de se passer, de montrer une réalité, surtout à l'heure de la transparence, de la recherche de la transparence, ça peut être utile. On n'apprend pas grand-chose, hein, faut être honnête, en regardant la vidéo, on voit qu'ils se parlent. Bon, ça, on se doutait bien qu'ils se parlent plutôt de manière décontractée, et sans tabou, tant mieux. Maintenant, la question qui est posée, c'est pourquoi le président fait ça maintenant? Est-ce que c'est un substitut au fait qu'il n'arrive pas à obtenir un certain nombre de choses sur le plan politique et donc il est obligé de faire de la mise en scène, ou est-ce que ça prépare une offensive politique? Moi, ce qui m'intéresse maintenant, parce que je reviens, peut-être vous allez dire que je suis obsessionnel, mais je suis obsessionnel parce que je pense qu'on est dans un moment clé, c'est quelle est la place, et on comprend pas d'ailleurs dans cette vidéo, quelle est la place que veut occuper la France aujourd'hui pour mettre fin à cette guerre. Et on mettra pas fin à cette guerre, comme je le vois sur d'autres chaînes d'information, où on fait venir des professeurs de sciences politiques ukrainiennes, qui sont toutes les unes les autres des guerrières achevées, en annonçant, on va aller jusqu'au bout, on va mettre la Russie KO, on se prépare à la reconquête des territoires, vous allez voir ce qu'on va voir. Je pense que sur cette logique-là, la guerre peut durer un temps fou. C'est les Ukrainiens qui en payent le prix. Parce que sur le fond, maintenant, c'est la population ukrainienne qui paye le prix. Parce que là, la Russie a restabilisé son dispositif militaire. Et donc, elle reprend ses vieilles habitudes, c'est-à-dire elle bombarde. Elle a les instruments qu'il faut pour ça. Elle les a installés. Et donc, c'est le peuple ukrainien qui est en train de payer très cher cette situation. Donc, il faut avoir un dialogue avec le peuple ukrainien pour lui expliquer la situation dans laquelle on est. Et je pense que si on ouvre la porte de l'entrée dans l'Union européenne, et si même on accélère, c'est pour leur donner une issue positive. Mais en même temps, la question est posée, c'est comment on arrive à retrouver la discussion avec la Russie. Et vous savez, dans cette vidéo, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on voit les chefs d'État, etc. Mais de l'autre côté, rappelez-vous ce qu'on nous a raconté sur M. Poutine. Il y a 3 semaines, une chaîne de télévision d'information, je n'ai pas son nom, mais elle va se reconnaître, nous a fait 3 jours sur le cancer du pancréas de M. Poutine, nous annonçant que M. Poutine allait mourir, qu'il avait Parkinson, etc. Je m'excuse de vous le dire, mais si la médecine russe a des talents, elle en a des sacrés, parce que quand vous regardez M. Poutine, on n'a pas l'impression qu'il en a encore pour quelques jours à vivre. Mais vous voyez, c'était une intoxication montée par les Américains, comme ils l'ont fait à de multiples reprises. Moi, je suis pas un anti-américain primaire, mais dans l'affaire irakienne, je rappelle les armes de destruction massive, je rappelle le rôle que ça a joué, y compris dans la déstabilisation de toute la région. Et là, on voit que l'Amérique, à nouveau, retrouve tous ses mauvais côtés. Et l'Europe se laisse, à travers les jeux internes à l'Europe, c'est-à-dire il y a un certain nombre de pays qui sont des pays frontaliers qui regardaient l'Europe, mais simplement comme une manière de sauver du bloc soviétique, mais pas comme une envie de construire un nouvel espace, qui jouent des rôles troubles. Je parle notamment de la Pologne.
Thibault de Montbriel, cette vidéo, c'est aussi une guerre de communication dans ce contexte très compliqué de guerre en Ukraine ?
Oui, enfin, je suis pas sûr que ça impressionne beaucoup Vladimir Poutine ou quiconque. Mais pour rebondir sur la question du contexte de la guerre en Ukraine, qui est un dossier que je suis de près, d'abord sur le terrain, il faut le dire, hein, les Russes sont lentement mais sûrement.
L'Ukraine est en train de perdre, oui, militairement.
C'est la tendance. Il peut se passer plein de choses, mais sur le terrain, la tendance, c'est que lentement mais sûrement, le rouleau compresseur russe est en train d'avancer. D'après les informations qu'on a, les Ukrainiens ont des pertes humaines terribles. Et ils ont beaucoup moins de réserves que les Russes. Et puis, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que bien sûr, on soutient les Ukrainiens et on a raison parce que par toute l'aide matérielle qu'on leur apporte. Mais je crains qu'on approche. Et j'espère qu'on n'a pas dépassé le moment où les forces qui ont été mises, notamment par les Américains, au soutien des Ukrainiens, font qu'il n'y a plus de marche arrière possible. Je m'explique. Je lisais l'autre jour, par exemple, que les États-Unis ont fourni à l'Ukraine entre le quart et le tiers de leur stock de missiles anti-char. Or, le temps de recomposition du stock est d'à peu près 5 ans. C'est-à-dire que si on suit cette logique, on va arriver à un moment où les États-Unis ne pourront plus faire autrement que de faire en sorte que la guerre se poursuive, parce que si jamais il y avait la paix maintenant, ils ne seraient plus en état d'affronter la Russie dans les quelques années qui viennent, faute d'avoir le matériel suffisant. Et l'autre chose qui m'inquiète et qui est un peu dans la même logique, c'est que vous avez des pays comme la Pologne, comme les pays baltes, qui sont en train de se demander, y compris publiquement, hein, par des chercheurs, par des politiques, etc., si ça n'est pas le bon moment. Ce sont des pays qui sont frontaliers avec la Russie, qui ont une histoire commune terrible et très violente avec la Russie, et qui sont en train de se demander si l'affaiblissement supposé de la Russie actuellement avec ces 4 mois de conflit en Ukraine n'offre pas une fenêtre d'opportunité pour casser les jambes une bonne fois aux Russes pour être tranquille pendant 50 ans. Et je crains que ce genre de calcul qui sont très irrationnels. Les situations peuvent dégénérer très vite. La façon dont la Lituanie s'est mise à décréter qu'il fallait faire un semi-embargo sur les marchandises russes qui arrivent à Kaliningrad, qui est l'enclave russe sur la Baltique, tout ça fait que Il y a un mélange explosif qui est en train de se mettre, un mélange détonant qui est en train de se mettre en place. Il y a eu des bombardements sur le territoire russe depuis quelques jours dont on parle très peu. Les Russes d'ailleurs communiquent assez peu dessus aussi. Mais il y a un accroissement de la tension qui est peut-être aussi dû au fait que les Ukrainiens sont en difficulté. Et je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins, mais que cette affaire pourrait prendre un tour beaucoup plus compliqué, y compris pour nous, dans les semaines qui viennent, si on garde pas la raison et si on n'appelle pas nos amis ukrainiens à la raison aussi, parce que les Ukrainiens, ils sont dans leur logique, ils sont dos au mur, ils ont subi des horreurs depuis 4 mois et donc ils ne veulent pas entendre de pourparlers de paix. Mais je pense que c'est des questions qui doivent se poser.
Mais justement, cette troisième voie chère à la France, elle peut encore peser, Julien Drey, aujourd'hui. Quand on voit Emmanuel Macron sur ses vidéos discuter, échanger.
Il y a un moment donné où c'est clair, où les premières heures vont être difficiles. Et y compris en France, dire ce qu'on est en train de se dire va nous amener immédiatement des réactions très violentes de tous ceux qui nous disent « vous êtes en train, ça y est, de faire avec l'Ukraine ce qu'on a fait avec la Pologne, la Tchécoslovaquie dans les années 30, etc. » avec des comparaisons historiques qui sont totalement, d'après moi, infondées. Et donc, vous allez être sous cette pression-là. Et en général, on baisse la tête, on dit « bon, ben non ». Mais il y a un moment donné où je pense qu'être responsable politique, c'est dire la vérité. La vérité militaire, c'est que les Russes sont en train de faire ce qu'ils ont fait, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas la question des pertes humaines qui est un problème pour eux. Je rappelle qu'ils ont perdu 11 millions de femmes et d'hommes dans cette guerre, plus que les nazis, mais ils l'ont gagné, parce qu'ils avancent, et il y a une forme d'honneur russe qu'on a ressuscité, parce qu'on a ressuscité. Pendant un temps, dans cette guerre, on a dit, ça y est, il y a une nation ukrainienne qui s'est formée, il y a une conscience nationale, etc. Mais toutes les informations qu'on a maintenant de ceux qui regardent ce qui se passe en Russie, vous dites d'abord qu'une grande majorité de la population est derrière Poutine, qu'il a repris la main, que les sanctions économiques, elles pèsent quasiment pas. Vous allez à Moscou, vous trouvez tout ce que vous voulez dans les magasins. Qu'il a même des circuits économiques qu'il a reconstitués, notamment sur le pétrole, avec des alliances nouvelles avec les BRICS, avec le Brésil, avec la Chine. Et finalement, il est en train, d'un point de vue, au départ, on disait il est isolé. Et on est en train de se rendre compte qu'il est loin d'être isolé. Il a reconstruit des systèmes. Et je pense que, d'ailleurs, les Chinois jouent parfaitement le jeu dans cette affaire-là. Ils reçoivent. Donc l'Amérique, d'après moi, comme d'habitude, fait n'importe quoi sur le plan diplomatique. Ça fait 50 ans que ça dure. Ils sont en train de mettre le monde dans des situations catastrophiques. Et en général, après, ils s'en vont et ils laissent le reste faire. Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan.
En tout cas, des conséquences directes pour les Français, cette guerre en Ukraine, c'est l'inflation qui ne cesse de galoper. Et puis, les salariés demandent des hausses de salaire et se mettent en grève. Ça a été le cas hier, notamment à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris. Le même scénario attendu la semaine prochaine. C'est les pompiers qui travaillent sur les pistes qui demandent, eux, une revalorisation salariale. Ces grèves, lors des départs en vacances, messieurs, elles impactent de très nombreux Français. On l'a suivi hier sur CNews. Il faut y mettre fin ou au contraire, ça permet de mieux entendre ces revendications salariales, cette souffrance de certains salariés?
C'est la vieille tradition française, quelle que soit la légitimité de la revendication, de prendre en otage le consommateur, le voyageur, etc. D'ailleurs, si vous avez lu le JDD aujourd'hui, Bernard Thibault, qui est intégré à l'équipe des Jeux Olympiques 2024, il met déjà en garde contre les grèves qui pourraient y avoir pendant les JO de 2024. Donc il y a déjà le chantage à l'avance sur
des éventuelles
grèves. Mais c'est ce qu'il dit. Il dit justement, pour pas qu'il y ait de problème, il faut tout lâcher tout de suite. Je trouve ça toujours très agaçant. Et j'ajoute que les choses ne vont pas s'arranger. Pourquoi ? Parce que si on fait le lien avec le début de l'émission où on parlait de la situation politique, ce qui risque de se passer, c'est que s'il y a des textes qui sont votés avec des alliances qui excluent la NUPES, les mélenchonistes ont déjà annoncé que le quatrième, le cinquième, le sixième tour, il serait dans la rue. Et quand on voit les positions parfois très très extrêmes de certains jeunes députés La France Insoumise sur certains sujets, je pense que La France Insoumise va souffler sur les braises et va combiner la pression à l'Assemblée nationale et la pression dans la rue dès qu'elle en aura la possibilité. Et je pense effectivement que les prochains mois vont être extrêmement compliqués.
Cette grande sociale. Moi, je pense par rapport à ce qu'on se dit, il y a des revendications salariales qui sont justifiées. Je veux dire, il y a des salaires qui sont trop bas en France, le travail n'est pas rémunéré comme il devrait l'être, et j'entendais un certain nombre de salariés, y compris qui travaillent dans les compagnies de transport, qui disent maintenant, nous, on habite, en général, ils habitent assez loin des aéroports. Ils disent avec l'augmentation de l'essence, c'est une catastrophe pour nous. Donc, ce qu'on peut reprocher, c'est aux directions des compagnies aériennes, comme elles auraient dû le faire, c'est d'avoir d'anticiper la situation en ouvrant de vraies négociations salariales. Parce qu'il y a la responsabilité peut-être des salariés qui prennent en otage, mais il y a aussi des directions d'entreprises qui doivent à un moment donné aussi jouer leur rôle citoyen, c'est-à-dire d'ouvrir des discussions, de faire des plans de redistribution, de revalorisation salariale, pas d'attendre la dernière minute en pensant, parce que c'est ça la mauvaise idée qu'il y a dans toute une partie, pas tout le monde, mais dans un certain nombre de patrons, c'est de dire ça va, la grève va être impopulaire et je vais bien m'en sortir. Non. La grève est impopulaire, on s'en sort pas bien. Et on n'a pas été capable de reconstruire des relations sociales. On a pourtant voté des textes qui permettent des alertes, des prises en considération, etc. Mais vous voyez bien qu'à chaque fois, ces textes, finalement, ils sont pas opératoires. C'est une culture d'entreprise qu'il faut rétablir.
Chef d'entreprise.
Et puis là, de toute façon, l'augmentation des prix et l'inflation est telle que les conséquences sur les salaires, elle est absolument inéluctable. Donc autant négocier, discuter et le faire vite, puisque de toute façon, il va y avoir besoin de le faire.
Mais les chefs d'entreprise, ils ont leur part de responsabilité aussi.
Quand vous voyez les dividendes qui sont redistribués et la course au profit maximum autour de ces dividendes, oui, il y a une part de responsabilité. Et quand vous voyez qu'un certain nombre de multinationales passent au travers de toute fiscalité, et en profite allègrement. Alors, on dit attention, c'est des piqûres de moustiques sur l'éléphant, les taxes qu'on a mis sur Apple, etc. Oui, il y a un problème qui est posé. Il y a un problème que les inégalités sociales n'ont jamais été aussi fortes, et surtout la concentration de la richesse dans les mains de quelques-uns n'a jamais été aussi forte. Alors, et le problème, c'est toujours la même chose, c'est que c'est les classes moyennes qui payent. Parce que tout le système de chèques, etc., finalement, c'est toujours les classes moyennes qui payent.
Il faut quand même rappeler qu'il y a énormément de petits patrons qui font partie des fameuses classes moyennes. Les PME, les TPE, les indépendants, les commerçants, et que chez ces petits patrons-là, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, il faut aussi assurer de quoi vivre à la fin du mois. Et c'est la grande difficulté de la situation actuelle, c'est qu'il va y avoir des conséquences inéluctables dans toutes les branches d'activité de cette hausse des prix et de cette inflation sur les relations dans toutes les entreprises, les grandes comme les petites.
La question était, c'est en ce sens-là que la question, effectivement, je suis d'accord, les artisans et les petits patrons, ils dorment pas la nuit parce qu'ils savent pas souvent comment ils vont faire pour finir fin de mois. Alors là, il y a un autre responsable qui, lui, s'en sort parfaitement encore, comme une fois, c'est notre système bancaire, qui, lui, est totalement indifférent aux problèmes des petites entreprises, etc., a fait des bénéfices considérables. C'est vrai que aujourd'hui, quand vous discutez avec les dirigeants de banque, ils vous disent qu'ils gagnent plus d'argent sur les comptes déficitaires que sur les autres et sur les incidents bancaires. Vous savez, quel est le montant des bénéfices réalisés par les banques sur les incidents bancaires ?
Dites-le nous.
Plus de 2 milliards d'euros cette année. 2 milliards d'euros sur des gens qui sont en difficulté. Ça, c'est, pour moi, c'est inacceptable.
Je ne suis pas sûr que la crise économique qui s'annonce épargnera les banques.
En tout cas, est-ce qu'on peut s'attendre à un mouvement de grogne sociale, mouvement de grogne sociale important à l'entrée ? Est-ce que on a vu hier cette grève des salariés à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ? Est-ce que ça peut s'étendre ? Est-ce qu'on peut avoir une rentrée mouvementée et notamment aussi dans ce contexte politique particulier ?
Moi, je ne crois pas à la capacité. On n'est plus dans les années 60 où le Parti communiste avait une influence directe sur le mouvement syndical. On se souvient, et donc la capacité de peser. Je ne pense pas que la France insoumise ait ces relais-là. Et donc, je ne crois pas à l'idée qu'il y ait des boutons et ils vont appuyer et puis ça va descendre dans la rue. Mais il y a une contestation sociale qui est là et qui est justifiée par tout ce qu'on s'est dit. Est-ce que ça va donner lieu à des grands mouvements d'ampleur ? Vous savez, dans les difficultés dans lesquelles on est, c'est pas sûr que les gens ils puissent se jouer avec leur parce que dans la grève, il y a ceux qui en profitent peut-être, mais il y a aussi beaucoup de pertes. Hein. Je veux dire, ceux qui font grève, ils perdent de l'argent et les fins de mois, elles sont difficiles. Voilà. Et quand vous gagnez pas beaucoup, deux jours de grève, ça commence à compter. Hein.
Je pense que ça dépend, ça va dépendre du contexte politique. Est-ce que pour des raisons liées à l'actualité parlementaire, la France insoumise va souffler un peu sur les braises ? Tout ça, c'est des interrogations. La réponse peut être positive. On ne sait pas, c'est une possibilité. Par contre, je pense que si jamais cet automne et cet hiver, il y a des pénuries à cause de tout ce qu'on vient de se dire sur la situation internationale, sur la spéculation aussi dont Julien a parlé tout à l'heure. Mais quelles que soient les raisons, s'il y a des pénuries, alors que la France n'a pas connu de pénurie depuis des décennies, là, pour le coup, tout est possible.
Ah, il y aura de la mauvaise humeur.
Il y aura de la mauvaise humeur, bien évidemment, et puis aussi de l'inquiétude pour nos générations futures.
Oui, c'est pour ça. Non, mais il y aura de la mauvaise humeur et de l'inquiétude, et ça peut se traduire très vite par des mouvements sociaux extrêmement durs, qui sont d'ailleurs quand même, qui commencent à être un petit peu anticipés par nos services de renseignement. Il faut quand même en avoir conscience.
On peut s'attendre, il nous reste quelques secondes, Julien Drey, pas de mouvement gilet jaune, type gilet jaune à l'horizon, selon vous ? Pas pour le moment, en tout cas.
Non, moi, personne n'est capable de...
Mais vous ne le sentez pas.
Non, je ne sens pas la grève générale traditionnelle se préparer et quasiment la grève générale insurrectionnelle, etc. Je sens de la mauvaise humeur. Je justifie encore une fois pour une grande partie de la population, parce que les conditions de vie sont très difficiles, sont en train de devenir de plus en plus difficiles. Je sens que, en même temps, chacun compte sa fin de mois et calcule comment il va s'en sortir. Donc ça ne veut pas dire qu'on va pousser tout de suite à des actions. Mais si le gouvernement, lui, ne répond pas, le risque le majeur pour lui, c'est des jacqueries. C'est ça le danger important. C'est-à-dire des flambées brusques, extrêmement violentes, et là, personne ne sait maîtriser.
On n'a jamais été dans l'histoire contemporaine devant tant d'inconnus.
Un grand merci à tous les deux. Merci Julien Drey, fondateur Mouvement Réinventé. Merci Thibault de Montbrial, avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Merci d'avoir échangé, débattu dans Ça se dispute dans un instant face à Dornelas, avec Charlotte Dornelas, bien évidemment. Et c'est présenté par Samy Sfaxi. Très belle soirée sur CNews.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.